Time Time Sport.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, tous les auditeurs, tous les auditrices en ce mardi ensoleillé et caniculaire. Avec une belle tablée aujourd'hui, donc pour nous accompagner. Et d'ailleurs, nous allons commencer par notre ami Olivier G. Olivier, comment vas-tu ?
Mais ça va très bien, Mamad. Et toi ?
Très bien. T'as l'air un peu bronzé. T'as profité du soleil.
Canicule, on profite un peu du soleil.
T'as bien raison.
On profite avant que l'hiver ne revienne.
T'as bien raison. On est encore loin de l'hiver. Je vais passer de l'autre côté de la table avec notre consultant Vivien Boyibanga. Vivien. Comment vas-tu ?
Ça va très bien, toi.
Vivien, il est en mode de NBA. Il nous a carrément sorti le t-shirt Marcel. Il nous a ramené la chaleur. C'est fantastique.
Toujours, toujours.
En même temps, il est en mode NBA toute l'année.
Donc. Oui, ça c'est vrai. Spécialiste NBA, Boyibanga, bien sûr. Alison Kunku, comment vas-tu, Alison ?
Salut, Mamad. Ça va et toi ?
Ça va très bien. Pas eu trop de difficultés ?
Non, ça va. La chaleur, mais ça va.
Avec tes cheveux, ça doit être un peu dur.
Ouais, c'est galère.
Alors, je vous ai fait le tour. Hein. Je vous ai fait le tour de nos auditeurs, auditrices. Et bien sûr, j'ai oublié de vous préciser que je remplace au pied levé nos amis présentateurs habituels, mais qui reviendront, bien sûr. Et on a deux invités d'exception qui vont nous faire effectivement le tour de cette fameuse CAN des quartiers dont vous avez entendu parler, et de la fameuse CAN d'Evry, d'ailleurs, plus particulièrement. Nous avons à la table Thomas Porlon et Tristan Baudenay. J'ai bien précisé.
C'est ça.
Comment vas-tu, Tristan ? Ça va ?
Très bien, malgré la chaleur. On est là, il fait bon, donc c'est parfait.
Thomas, ça va ?
Très bien.
Tu souffres pas trop ? Bouteille d'eau, comme dans le Tour de France ?
On est bien reçu.
T'es prêt à monter les côtes ?
Prêt.
Bah, ça va chauffer, je vous le dis tout de suite. Allez, c'est parti pour Time Sport, tout de suite.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et oui, le ras-le-bol. On va faire un petit retour sur les grandes compétitions qu'on a vécues cet été. On a été gavés, sevrés de compétitions. La CAN, la Copa América, le Mondial 2018, la Copa América, j'ai déjà dit, et la Gold Cup, effectivement. Et d'ailleurs, on va se poser des questions. Le niveau du football des sélections est-il si mauvais? Puisque, effectivement, on a entendu parler de beaucoup de choses, à savoir que le jeu était un peu triste, que malgré cette multiplication de compétitions internationales, on n'a pas trouvé trop de jeux. Et je vais commencer par toi, Olivier. Quel est ton sentiment sur ce constat ?
Que les sélections soient mauvaises, moi je trouve que c'est un bien grand mot.
Mais que les compétitions, en fait, on parle au-delà des sélections, on parle.
Mais pour que les compétitions, si tu me dis qu'une compétition est mauvaise, c'est que les sélections sont mauvaises, obligatoirement.
Par extension.
C'est pas antinomique.
Par extension.
Mais grosso modo, pour moi, ce qui se déroule en ce moment, c'est qu'on revient à un football basé, pour moi, des années 90. Rappelez-vous la Coupe du Monde 90 en Italie, qui était chiante à mourir avec vraiment des.
Du gros catenaccio, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, complètement. Et pour moi, aujourd'hui, on revient vraiment à ce football-là. On l'a vu avec le Portugal en 2016, qui est champion d'Europe. Félicitations à eux. Mais par contre, c'était quand même pas resplendissant dans le jeu. La France a été critiquée en 2018.
J'ai eu peur que tu l'oublies.
Non, du tout. Je ne peux pas l'oublier. Ils sont champions du monde. Bravo à eux. Pareil. Mais on sait tous aussi, si on est assez franc, que certains matchs étaient assez ennuyeux. On repensera au match de poule, notamment, ou même, bref. Je pourrais continuer longtemps comme ça. Oui. On a le Brésil cette année qui finit meilleure défense de la Copa, qui prend un seul but sur penalty, mais pareil, c'était pas resplendissant ce qu'on a vu. On a l'Algérie aussi qui n'a pris que deux buts, mais cette finale, par exemple contre le Sénégal, on peut pas dire qu'on s'est beaucoup amusé. Même si l'essentiel est la victoire, ça je l'entends complètement. On a aussi chez les femmes, les États-Unis, pareil, la base défensive toujours et encore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui. On dit toujours que la meilleure défense, c'est l'attaque.
Tu cherches l'attaque.
Voilà, exactement, je cherche l'attaque.
Alison, je te vois, toi. T'as envie de sauter sur le micro.
J'ai envie de parler,
oui, je sens. Mais surveille-la. Ne te laisse pas faire. Hein.
Non, c'est ça.
Ces grandes compétitions internationales qui nous paraissent un peu fades au bout du compte.
Ça paraît un peu fade, mais on est de retour dans un football moins spectaculaire.
Oui.
Un football basé plus tactique, un football beaucoup plus pensé. Et on voit de meilleures organisations, on voit des joueurs beaucoup plus disciplinés, on voit des joueurs beaucoup plus sérieux. Et aussi, ce qu'on remarque dans les grandes compétitions, c'est que l'écart entre les équipes s'est resserré.
C'est un moment.
Entre les grandes équipes et les soi-disant moyennes équipes et les outsiders, on n'a plus un tel écart. Donc finalement, ça ne donne plus des matchs très spectaculaires, je vais y arriver.
Mais juste rebondir sur ce que tu dis, est-ce que le fait que l'écart se soit réduit, est-ce que ça implique forcément qu'il n'y ait pas de jeu? Parce que l'écart peut se réduire tout en ayant du jeu, on peut avoir des équipes qui jouent.
Ah non, bien évidemment que non, ça vaut le coup qui est du beau jeu, mais par contre là, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le football défensif avec des défenseurs centraux qui
Alison, si je peux me permettre de te couper.
Bien sûr.
Dans l'idée quand même, la Ligue des Champions qu'on a cette année, qui était pour le coup spectaculaire et assez resplendissante. C'est aussi une compétition internationale qui n'était pas, pour le coup, cette année, basée vraiment sur la défense. On a eu des matchs qui étaient complètement imprévus. Et pourtant, le niveau aussi se resserre à ce niveau-là.
Bien sûr.
Mais donc, comme quoi, la beauté du du jeu et le resserrement des, de niveau des équipes n'est pas antinomique à un jeu spectaculaire.
Tout. Pas
mais,
du tout.
Mais justement, alors, parce que pour rebondir sur les propos d'Alison et d'Olivier, Vivien, toi, effectivement, est-ce que tu es en phase avec ce constat qui paraît effectivement sans appel?
Le constat
est bien précisé qu'on parlait des compétitions internationales, parce qu'Olivier vient de faire le pont avec la Ligue des Champions, qui est quand même une compétition majeure, mais on parlait bien des compétitions internationales. Pourquoi on a ce constat au niveau des compétitions internationales à chaque fois, bah, Olivier l'a rappelé, France 2018,
l'enjeu est trop
grand. Portugal 2016, la CAN avec l'Algérie, toujours aujourd'hui, c'est ce sentiment de passer à côté du spectacle.
Bah, j'ai l'impression qu'en fait, peut-être que la culture du résultat a pris le pas sur l'enjeu, c'est-à-dire. Bah,
plus qu'en club.
Bah, justement, si on prend l'exemple de l'Ajax, j'ai l'impression que dans 5 ou 10 ans, on se souviendra un petit peu de l'Ajax, il a fait du beau jeu, etc. Mais peut-être beaucoup moins que les finalistes Tottenham et Liverpool, à cause de cette culture du résultat qui est un des problèmes du foot pour moi actuellement. C'est que effectivement, la culture du résultat a pris un petit peu trop le pas sur le jeu, et peut-être que on va moins retenir le Belgique 2018 que France ou Croatie qui sont allés en finale. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver l'équilibre, mais peut-être que le contre-exemple que beaucoup oublient, c'est que par exemple l'Espagne en 2010 n'encaisse aussi que 2 buts.
Mais avec un jeu quand même
flamboyant. Ça prouve aussi pour les auditeurs qu'on peut aussi être très solide défensivement et produire.
L'un n'empêche pas l'autre.
C'est ça, justement.
Même si, bon.
Je vois Thomas qui penchait légèrement la tête de côté. Thomas, excuse-moi, je n'arrête pas de décrocher ton nom. Porlon. Thomas, tant moi.
Thomas,
ton constat aussi, est-ce qu'on fait cette distinction qu'on arrive à faire entre cette Ligue des Champions qui est la compétition majeure et qui nous a donné beaucoup de frissons cette année, et ces compétitions internationales, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'en compétition internationale, on n'arrive pas à garder cette ferveur, c'est avoir du jeu, tout simplement?
Moi, je me pose juste la question, si les saisons ne sont pas trop longues et s'il n'y a pas trop de d'enchaînement.
Je voulais emmener un de nos auditeurs là-dessus, mais de nos consultants dessus, mais personne n'y a été.
Voilà, on est en plein dans la préparation. Il y a des tournées qui se font partout dans le monde entier. Après, on va commencer les matchs de championnat, la Ligue des Champions. Puis après, il y aura la trêve et il y aura certaines tournées qui vont recommencer à l'hiver. Puis la Ligue des Champions encore, les coupes nationales, etc. Et donc, arrivé en juin, bah, peut-être que nos joueurs sont fatigués.
Ils ont peut-être plus rien dans les chaussettes.
Je prends l'exemple de peut-être. Sadio Mané. Sadio Mané n'a que 8 jours de vacances cette année.
De vacances, Tristan, d'ailleurs, parce que alors, pour aller un peu plus loin, alors, on vient de faire ce constat-là. Et effectivement, on s'aperçoit que les saisons des joueurs qui jouent en club sont des saisons à rallonge. Ils arrivent un peu, entre guillemets, pour certains, rincés. Bon, Sadio Mané, il a été jusqu'au bout, puisqu'il a été carrément jusqu'à la finale avec des champions. C'est très compliqué ensuite que d'avoir un peu de punch pour pouvoir finir sur en feu d'artifice sur une grande compétition comme ça.
Oui, surtout avec une CAN qui s'est déroulée cette année en plein été. Alors que d'habitude, elle se déroule en pleine saison, qu'il y avait des joueurs forcément émoussés. Moi, j'ai l'impression que tous les 4 ans, finalement, on a l'impression que c'est l'équipe qui est championne du monde, qui donne un peu le là du football qui va suivre pendant les 4 années. Quand on voit l'équipe de France de Didier Deschamps et puis l'équipe d'Algérie, finalement, c'est le collectif qui a primé, une défense solide, voilà, un groupe un peu commando pendant un mois et demi. Et dans toutes les compétitions internationales, c'est ce qu'on va retrouver. Puisque apparemment, c'est ce qui marche sur les années.
Ça vient presque plus du Portugal 2016.
Ouais,
je pense que Deschamps prend la leçon en finale contre le Portugal et refait une petite restructuration à ce niveau-là.
Mais alors, ça, c'est un constat qu'on fait de manière générale, mais est-ce que vous avez des ingrédients, des recettes qui pourraient redynamiser, rebooster ces compétitions censées représenter le must en termes de spectacle? Il y a peut-être quelque chose à faire, voilà. On n'est pas sélectionneur, on n'est pas entraîneur non plus, mais qu'est-ce qu'il faudrait effectivement ramener un petit peu sur la table pour que ces compétitions reprennent un peu plus de sel?
Les compétitions, c'est pas assez compliqué. En rugby, on voit des joueurs qui sont préservés le reste de l'année pour pouvoir arriver en forme lors des Coupes du Monde, qui disputent moins de matchs. Après, c'est difficile de dire à un joueur, tu vas pas jouer les matchs de Coupe de France ou de League Cup en Angleterre parce que ton équipe nationale a besoin de toi. Malheureusement, c'est comme ça. Après, espérons que certaines équipes nationales prennent un peu le modèle de l'Ajax. Mais c'est plus compliqué de construire une vraie équipe solide offensivement.
On n'a pas le même temps. Voilà. On joue pas sur les mêmes durées, sur les mêmes échéances, c'est sûr.
Il faut espérer une belle génération dans une équipe qui gagne en jouant au foot. Et puis, ça donnera l'exemple pour les années d'après. Alors, mais c'est compliqué.
Alors, est-ce que finalement, le problème, il vient pas du coach? Parce que c'est finalement le coach qui donne le tempo. Parce qu'on
mais parle, des instances, parle peut-être déjà. Même. Plutôt, finalement, ça viendrait presque plutôt des instances. Parce que le coach, enfin le sélectionneur en l'occurrence, a une obligation de résultat pour pouvoir rester. Donc finalement, quand tu passes par un contrat ou pour rester sélectionneur, il faut arriver à tel ou tel, enfin je sais pas moi, un quart ou demi, etc. C'est la pression, elle commence là. Déjà, elle commence encore au-dessus du sélectionneur pour moi.
Ouais, c'est sûr. Mais alors, quel est le coach, quel est l'attelage coach instance qui pourrait effectivement nous donner quelque chose?
Il faut rationaliser tout ça. Là, on a l'enjeu qui prime sur le jeu. à un moment donné, tous les aficionados de football, on est tous d'accord pour dire que c'est un petit peu tristouné ce qu'on a vu ces deux derniers mois, notamment.
Totalement.
Voilà, objectivement,
on est tous un peu
à part
déçus.
Peut-être les supporters de leur propre équipe qui sont allés loin, on peut quand même se dire que c'était assez triste. Bah voilà, c'est soit il y a une vraie remise en question et on refait un petit peu du foot champagne ce qu'on aimait, mais après c'est parce qu'on on est des gros amateurs de beaux jeux. Mais après, maintenant, je me mets à la place d'un sélectionneur. Si on prend Belmadi pour l'Algérie, enfin je veux dire, pour lui c'est du 100% victoire, quoi, cette histoire, quoi.
Bah, je pense
qu'on prend aussi le cas du Brésil à la Copa, même si c'était pas très reluisant, quelque part ça va au bout.
Je dirais plus loin, quel que soit le coach, celui qui gagne finalement, il se départ de ce qui est de la manière dont ça a été fait, parce que lui revient avec son titre.
Parce que même
après,
le Qatar a tenté de jouer à la Copa en fait. Mais après le Qatar, ok, c'était compliqué. Mais le Qatar a tenté de jouer. Enfin, c'est compliqué quand tu joues contre des équipes qui sont ultra repliées.
Alison, tu voulais peut-être ajouter quelque chose.
Non, je pense que tout a été dit.
Tout a été dit.
Tout a été dit.
Bah, écoutez, en fait, on peut aller quand même un peu plus loin. Mais ce constat-là, alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est condamné, quoi qu'il arrive, à avoir des compétitions insipides. On n'est pas, il y a rien qui pourra nous ramener sur. Sur quelque chose de beaucoup plus attrayant, parce que là on voit qu'on baisse tous les bras là. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi.
Moi j'ai quand même l'impression que le résultat donne raison aux entraîneurs finalement. Donc tant que les entraîneurs gagnent en jouant comme ça très défensif avec des blocs compacts et en espérant des grosses prestations de leurs attaquants.
Voilà. Après c'est dans le choix des coachs aussi. Enfin, je veux dire, une fédération qui va vouloir. Moi je reviens encore sur le truc de la Fédé. Quand la Fédé te prend un entraîneur qui garantit un nombre minimum de buts encaissés, qui est quand même donc le début, enfin l'essence même du foot, c'est-à-dire ne pas en encaisser pour essayer de gagner derrière. Quand tu mets que des coachs défensifs, faut pas s'étonner d'avoir finalement
ce jeu-là. Moi, je vais aller encore un peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de me dire, est-ce qu'il y a une sélection qui a gagné une grande compétition internationale avec un jeu flamboyant? Parce que finalement, on est en train de faire un constat. On est en train de faire un constat à courte vue en parlant des dernières compétitions qu'on a eues ces derniers temps. C'est une chose, mais si on retourne un peu plus loin, est-ce que vous avez le souvenir d'une compétition qui a été enlevée au pied levé avec une équipe qui a un jeu flamboyant? On a parlé de l'Espagne tout à l'heure.
Bah, c'était pas flamboyant l'Espagne quand ils sont champions du monde. C'était loin d'être flamboyant, c'était pas le Barça.
Ils ont eu des phases intéressantes. Très peu de buts, mais des phases de jeu intéressantes quand même.
Mais c'était pas l'Espagne flamboyante.
Peut-être pas de 2012 par exemple, qui était plus intéressante, mais il y a quand même des phases de jeu intéressantes. Peut-être le Brésil 2002, moi je pensais comme ça.
Avec Ronaldinho, Ronaldo,
l'Allemagne qui ne passe pas, qui se fait lamentablement éliminer, mais finalement, en termes de jeu. Purement, enfin, jeu, c'était pas si moche. Hein. Le Mexique fait aussi une très belle compétition. C'était très joli ce que vous avez présenté le Mexique.
Souvenez-vous aussi des Belges qui sont un peu pleins de dire que la France avait un peu joué de manière assez fermée, alors qu'eux méritaient peut-être plus parce qu'ils avaient un jeu
qui était beaucoup plus... Après, ça, c'est la frustration du football, malgré tout. Effectivement, le beau jeu était côté belge ce soir-là, mais voilà.
Bon, bah écoutez, on a un constat qui est très très dur. Vivien, tu n'as pas, t'as pas de ton constat là-dessus. Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait? On cherchait un peu des recettes, des ingrédients. Je pensais que vous alliez me donner un peu.
Je pensais peut-être que ça pouvait venir, par exemple, de l'Amérique du Sud. Je sais pas si cette zone-là, peut-être pendant les qualifs, notamment.
C'est des phases. Pour moi, c'est des phases.
Mais peut-être que justement, en termes de phases, peut-être que ça peut revenir et peut-être qu'on est dans une période un petit peu difficile et que. L'Amérique, peut-être des sélections comme le Chili, enfin je sais pas. Après, ça dépend beaucoup de.
Fut un temps où tout le monde voulait jouer comme le Barça. Un temps où tout le monde voulait jouer à l'italienne.
Totalement.
Voilà. Là cette phase-là sera un de ces quatre dépassés. Mais c'est vrai que pour le moment, faut appeler un chat, on s'est un petit peu chier lors des compétitions internationales.
Et c'est aussi finalement, malgré le jeu qui n'est pas très beau, c'est les meilleures équipes qui s'imposent. L'équipe de France avait des qualités exceptionnelles. L'Algérie, finalement, on se rend compte que c'était peut-être elle la meilleure équipe. Le Brésil aussi. Donc, eux, ils ont une base. Et c'est aux autres d'aller les chercher, justement, ces équipes-là, en proposant plus de jeux.
Par exemple, la défense du Brésil, à la Copa, t'as quand même Alexandro. Attends, c'était quoi Alexandro, Daniel Vess, et au centre, t'avais Marquinhos, Thiago Silva. Faut aller les chercher, exactement. C'est costaud, quand même.
Donc, en fait, toutes ces équipes-là, quand même, sont basées sur une solidité défensive avant tout. Ce qui est un peu propre des grandes équipes aussi, forcément. Donc, c'est très compliqué que de rester un peu romantique. Thomas,
on a besoin de romantisme.
On a besoin de romantisme. Mais en fait, est-ce que le romantisme, mis à l'écueil du pragmatisme de la victoire, c'est un peu compliqué.
Moi, j'ai une question sur le nombre d'équipes dans les compétitions internationales. Il augmente de plus en plus. Est-ce que c'est pas un facteur aussi
qui joue? Ça, c'est peut-être aussi une question à se poser. Savoir est-ce que est-ce que la qualité se dilue pas en fonction du nombre d'équipes qui sont jouées, en sachant qu'on va passer une phase de pour la Coupe du Monde, non pas pour 2022 puisque ça a été reporté, je crois.
Reporté pour le moment.
Reporté, mais on passe pour une phase encore derrière. Donc on part encore dans une phase où on va faire venir de plus en plus d'équipes.
Juste pour revenir sur le Portugal en 2016, quand même, rappelez-vous qu'à ce moment-là, le Portugal passe ric-rac vraiment à tous les tours. Et que même les supporters portugais avait une chanson là-dessus. Je ne sais plus exactement les paroles, mais grosso modo, même si notre jeu est moche, seule la victoire est belle, grosso modo. Donc c'est ça que les supporters de chaque équipe retiennent finalement. Si tu t'embêtes à regarder un match de ton équipe et finalement que c'est trop défensif, tu vas vouloir du changement, que ça avance. Mais quand tu gagnes, tu peux rien. C'est compliqué de reprocher quelque chose à une équipe qui gagne, en fait.
Mais donc, alors, dans ce constat-là, quelle est l'équipe qui, d'après vous, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'on est passé dans une phase intermédiaire, beaucoup d'équipes qui sont en reconstruction, on l'a beaucoup constaté pendant la CAN par exemple, quelle est l'équipe qui serait la plus à même de pouvoir effectivement à un moment donné représenter ce fameux jeu, ou alors il n'y en a aucune? Mais est-ce qu'il y a une équipe où
la Hollande m'a pas mal plu ces derniers temps.
Ouais, la Hollande, les Pays-Bas, on les attend, les Pays-Bas. Hein.
Enfin, franchement, sur cette année, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné.
Ils amènent des nouveaux jeunes, les Pays-Bas. Je pense que je les vois bien dans.
Oui, on l'a ressenti au niveau des clubs avec l'Ajax.
Rappelez-vous du dernier match contre l'équipe de France.
Contre l'équipe de France, bien sûr.
On s'est fait balader et c'était beau. Enfin, voilà, faut appeler un chat un chat. Punaise, c'était beau de les voir jouer comme ça.
En fait, ce qu'il faut espérer, donc, c'est que cette équipe des Pays-Bas garde son jus, qu'elle garde
son jus, qu'elle garde l'exemple pour les autres, puisqu'on, comme disait
Tristan.
Comme disait Tristan, c'est souvent les grandes équipes qui donnent le tempo pour le reste. Donc effectivement, si les Pays-Bas arrivent sur une, il y a quand même une génération dorée, ils peuvent donner un peu le tempo.
Ce qui veut dire qu'on a un peu mal barré, parce que c'est l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, c'est l'équipe qui donne le tempo. C'est ce que tu veux me faire dire, Olivier. C'est ça, en fait. T'osais pas le dire. C'est ce que tu veux me faire dire.
Pour dire ce que disait Tristan, grosso modo, que les vainqueurs donnaient le tempo, mais que les grandes équipes qui joueuses aussi peuvent le donner comme les Pays-Bas justement.
Bon, écoutez, on vient de faire ce constat-là. Je vois que tout le monde n'est pas très vaillant. Mais encore un tout petit peu d'espoir. J'ai quand même réussi à faire naître un peu d'étincelle auprès de mes chroniqueurs.
Moi, si l'équipe de France est championne comme ça dans 4 ans, je re-signe. C'est pareil pour tout le monde.
On va se retrouver dans quelques instants pour l'incroyable mais vrai.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport.
Or, de retour sur le plateau de Time Sport avec nos invités Thomas Orlon, Tristan Bobo-Delaye, Alison Kunku, notre chroniqueuse attitrée, Vivien Boibanga, et à ma gauche, notre cierre, Olivier G. Ouais,
pour rappeler aux auditeurs que vous inquiétez pas pour la prononciation, Mamadou fait des efforts, il a rendez-vous chez l'orthophoniste juste
après. C'est vrai, je suis dyslexique.
Ça a fini
par en. On revient, on se retrouve tout de suite pour l'incroyable mais vrai.
Time Sport.
L'incroyable mais vrai, nos deux invités, Thomas Porlon, Thibaut Bodenaille, co-réalisateur du documentaire Evry, l'autre CAN. Vous avez tous entendu parler de la CAN officielle, on en sort, et ben vous allez voir avec qui on va rentrer dessus dans la CAN officieuse. Thomas, Tristan, comment allez-vous?
Très bien.
Très bien,
parfait.
Très bien,
merci.
Ouais, je vois ça. Vous avez le sourire?
On a le sourire après un mois et demi de reportage, on est enfin en repos, entre guillemets.
Ah bah super, voilà. On va aller donner les petites bites de tout ça. Ouais. Ouais. Alors pour commencer, peut-être pourriez-vous vous présenter avant d'entamer les hostilités.
Tristan Bodenaille, donc journaliste pour France Télévisions le plus souvent, et puis depuis donc 2 mois en indépendant aussi avec mon collègue Thomas. On s'est lancé là-dedans à l'occasion de la CAN d'Evry, et on a pris du plaisir là-dedans, Thomas.
Voilà, et avec Tristan, on a réalisé un documentaire qui s'appelle Evry, l'autre CAN, qui est disponible gratuitement sur YouTube.
Sur YouTube.
Depuis une grosse semaine déjà. Voilà.
Donc, c'est une demi-heure. En fait, vous êtes rencontrés pour. Vous avez commencé. Vous vous connaissiez avant ou c'est lors de le tournage de ce documentaire-là que ça vous a permis de lier amitié?
Non, avant tout, on est potes. On est sortis la même année d'école de journalisme.
D'accord.
Et on s'est rencontrés en fait en tournage au fil de nos expériences. Et puis, on a lié une amitié et on s'est dit, ça fait un moment qu'on s'était dit. Il faut qu'on fasse un truc indépendant, il faut qu'on fasse un documentaire indépendant, quelque chose
qui sorte un peu des sentiers battus ou de ce que vous faites d'habitude.
Exactement, des médias traditionnels.
D'accord.
Et un jour, dans le train, on est tombé sur une vidéo de la CAN d'Evry, justement, c'était un envahissement de terrain.
Donc, d'accord.
Après un but de l'Algérie, le stade est devenu complètement fou. Je sais pas, il y avait 500 personnes qui sont rentrées sur le terrain après un but, etc. Et on est devenu fou aussi de notre côté. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un truc, quelque chose dessus. Donc on a contacté un joueur sur Twitter. Et puis on y allait.
Alors avant que vous nous donniez un petit peu la cuisine de cette fameuse CAN, parce qu'il y a peut-être des auditeurs et des auditrices qui ne savent pas effectivement qu'il s'est passé une contre-CAN, comme il y a un contre,
et pas qu'une,
comme il y a un contre-festival à Avignon ou ailleurs.
Est-ce la passion du sport qui vous a mené au journalisme ou alors l'inverse? Ou alors vous êtes peut-être dans les médias beaucoup plus traditionnels, vous traitez peut-être d'autres sujets beaucoup plus généraux, et ou alors vous êtes vraiment spécialisé dans le sport?
À titre personnel, moi c'est la passion du sport qui m'a mené au journalisme. Je voulais être journaliste sportif à la base, mais on travaille d'habitude dans les médias traditionnels.
C'est triste.
On travaille dans les médias traditionnels où on est amené à traiter un petit peu tous les sujets. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait se lancer de notre côté, pour avoir la main mise sur les sujets qu'on voulait traiter, pas forcément faire de la politique, de l'actu, mais faire des choses qui nous motivent vraiment. Je pense que c'est un peu pareil pour toi.
C'est un peu pareil pour toi.
Je suis arrivé au journalisme par le sport et j'ai vite compris en école que le monde était grand, qu'il y avait plein d'histoires à raconter, et donc que le sport à proprement parler, les faits, etc., étaient moins intéressants pour moi que les histoires autour.
Les
histoires de sportifs, soit professionnel ou amateur.
D'accord. Donc vous vous êtes immiscé dans les entrailles de cette canne, dite des quartiers, en réalisant ce super reportage Évry, l'autre canne. Alors pour les profanes, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, mais je pense qu'on en a tous un peu dû parler, donnez-nous un petit peu, faites-nous une synthèse. C'est quoi cette canne exactement?
C'est une canne qui s'est lancée pendant le ramadan à Évry. Alors apparemment elle s'est lancée à Évry. En fait, l'habitant des quartiers des Épinettes et des Honnêtes à Évry faisait déjà depuis plusieurs années des tournois entre eux, des tournois intergénération, interquartiers. Et cette année, en écho à la vraie canne qui s'est déroulée en Égypte, ils se sont dit, nous aussi on va faire notre canne, avec 50 spectateurs seulement pour le premier match, voilà. Et certains rappeurs se sont saisis un petit peu de la chose, ont commencé à booster le tournoi sur les réseaux, et on est très vite arrivé à 2000 spectateurs en bord du terrain. Et c'était un phénomène incroyable pendant un mois et demi.
Impressionnant. Thomas?
Il a tout dit.
Non, je ne vais pas prendre la porte quand même.
Voilà, c'était une CAN avec des équipes, pas toutes les équipes de la CAN évidemment. C'était les CAN en fonction des nationalités des parents, de l'origine des parents. Donc il y avait 10 équipes, Algérie, Tunisie, Maroc, le Sénégal, la Guinée, le Mali, grosse communauté malienne aux Épinettes.
Aux Épinettes,
Évry, le Congo. Le Congo. Il y avait une équipe des Dom-Tom. Et reste du monde qui rassemblait un peu
toutes les autres communautés,
un Turc, voilà.
Il n'y avait pas d'équipe de France représentée.
Il n'y avait pas d'équipe de France, non. C'était vraiment une coupe d'Afrique des nations entre guillemets. Bon voilà, ils sont tous binationaux.
Bien sûr.
Donc on a vu des commentaires, notamment sous la vidéo, en disant il n'y a pas d'équipe de France, mais c'était pas l'objectif. Et ils sont tous français, ils le savent très bien.
On en a entendu
sur
ça.
Mais ils voulaient juste
gros succès de votre vidéo.
220 000 à peu près.
Dans l'idée, si on est un peu factuel, vous avez certainement vous travaillez dans les médias, vous auriez eu certainement des propositions pour imposer ou pour vendre en tout cas votre reportage. Qu'est-ce qui fait que vous avez préféré le diffuser sur YouTube par exemple que
Olivier
dans,
qui est
dans les médias parole. En fait c'est une liberté.
C'est exactement ça en fait, c'était la liberté de pouvoir faire le format qu'on voulait sans avoir de pression non plus de résultats. On voulait rendre le reportage quand on l'avait fini, pas forcément à une date précise. Et d'un côté là-bas, on était aussi mieux vu parce qu'on venait pas forcément de médias traditionnels. Ils ont un peu une méfiance dans les quartiers, notamment à Évry. Et ça nous a permis notamment de rester un mois tous les jours avec eux sans avoir de petites réflexions sur vous êtes BFM ou France Télé, etc.
Ça se passe comment? Vous arrivez le matin, vous repartez le soir, vraiment?
Ça dépend des jours. Parfois, on venait, on n'avait qu'une séquence à tourner, par exemple un tirage au sort ou quoi que ce soit, et on venait qu'à partir de 17h. Parfois, on venait sans but précis. On disait, on va venir manger à midi, et puis après, on verra bien ce qui se passera. Parfois, on venait sans rien tourner. On
faisait
la journée, la soirée avec eux.
Combien de jours de tournage? Parce que vous veniez à peu près quand vous vouliez, mais ça s'est étalé sur combien de temps?
Un mois quand même.
D'accord.
On est arrivé au milieu de la compétition. En fait, on a le temps de mettre tout ça en place, de discuter, etc. On a commencé à tourner que la semaine des quarts de finale. Donc, c'est pour ça que le documentaire commence par le choc des quarts de finale qui est un Maroc-Algérie.
D'accord.
Très chaud, Maroc-Algérie.
Oui.
Et donc.
Dans les tribunes, sur le terrain.
Des rebondissements, des buts. non, vraiment, vraiment sympa.
Vivien Bobianca qui veut peut-être vous poser une question.
Alors,
Vivien.
J'ai vu le documentaire en plus aujourd'hui, comme juste avant l'émission. Et il est vraiment bien. Je recommande à tous les auditeurs de le voir parce qu'il est vraiment très intense.
Merci.
Et j'avais envie de vous demander justement quelle est la suite. Est-ce que par exemple vous allez peut-être le proposer à des médias ou à certains peut-être concours un peu différents comme Ciné Banlieue? Quelle est la suite un petit peu?
Les médias, je pense pas, puisque de toute façon, le documentaire il a déjà tourné en fait. Les médias ils ont plus aucun intérêt à nous acheter ça. Nous, l'idée c'était que tout le monde puisse le voir gratuitement, pas forcément à une heure précise. C'était vraiment de le diffuser au plus grand public. public. Ensuite, je pense que peut-être dans les mois prochains, on va réfléchir à l'idée de le présenter à certains concours, parce que c'est aussi une certaine idée de la mixité, la vie de quartier qu'on a voulu montrer. C'est pas que du foot, donc je pense que ça peut séduire d'autres franges du journalisme.
C'est le début d'une collaboration entre vous pour d'autres choses, ou c'est du one shot?
Non, très certainement, on réfléchit déjà à d'autres sujets, mais on n'a pas envie de faire des sujets pour faire des sujets, on a envie de se faire plaisir.
Oui, ça va être un truc de passionné quand même.
Voilà, et de faire des choses au long cours. Là, on a mis un mois et demi en comptant le montage, mais c'était du plaisir, donc on ne va pas faire des choses juste pour l'intérêt de bosser à deux. Il faut qu'on ait des bonnes idées.
C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on l'a mis sur YouTube et qu'on a voulu le faire en indépendant. C'est parce que c'est aussi notre premier doc, c'est notre premier grand reportage. Et on avait envie de le faire à notre manière, encore une fois.
Bah, je vais aller un peu plus loin sur parce que Thibaut commençait à emprunter un peu la voie que je voulais prendre, à savoir que vous évoquez, enfin, vous qui étiez carrément au milieu de cette canne, que vous évoquez cette expression de la banlieue qui s'exprime et s'organise en tant que telle, avec une forte communication identitaire. Alors, parce que on en a discuté un petit peu ici, est-ce qu'on ne frôle-t-on pas le communautarisme, ou au contraire se présente-t-elle comme une composante à part entière d'une France unis mais multiples? Parce que on s'est posé des questions, je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas d'équipe de France? Je l'ai fait exprès, parce que moi j'étais voir la CAN de Clichy par exemple, j'ai entendu des choses sur place, il n'y a pas d'équipe de France, on aurait pu faire une équipe de France, il n'y a que la Turquie, l'Algérie, autre chose. Alors est-ce qu'on est au milieu de tout ça? La banlieue, elle a pris en main un peu, c'est une forte, tout s'est bien passé, moi j'ai pas entendu de dérapage ou quoi que ce soit, très bonne organisation, très très rapide. Moi je sais que par exemple à Clichy, ils se sont organisés en 4 jours. À la suite de ce qui s'était fait ailleurs, en 4 jours, c'était organisé, les équipes, les maillots, tout était prêt. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même une onde positive. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de ce constat, au-delà du côté foot et tout ça? Parce qu'il y a une expression de quelque chose quand même derrière tout ça.
À titre d'anecdote, déjà, pour revenir au communautarisme, l'équipe reste du monde. C'était l'exemple concret que c'était pas du tout communautaire, puisque tous les pays, Turquie, pas forcément africains, étaient réunis.
Un super exemple.
L'hymne de cette équipe, c'était l'hymne de l'équipe de France, tout Parfait. Simplement. Donc ça règle au moins ces soucis de communautarisme. Après, c'est le parti qu'ils ont choisi de réunir les équipes par le pays d'origine des parents. Leurs parents, ils ont pas fait exprès d'être originaires de Côte d'Ivoire. Voilà. C'était leur délire, entre guillemets. Ça s'est très bien passé. Il y a des images dans le documentaire, vous irez voir si vous l'avez pas encore vu, entre Marocains et Algériens, des choses qu'on verrait nulle part ailleurs. Et ce quartier, vraiment, c'est des gens qui s'adorent. C'est des gens qui...
C'est des épinettes, c'est ça, hein.
Épinettes et honnêtes.
Épinettes et honnêtes,
et,
d'accord.
À Évry. Ils ont fêté ensemble la qualif en finale du Sénégal et de l'Algérie, par exemple. Donc c'est pas du tout communautaire.
Voilà, s'il y a un seul communautarisme qui puisse exister, c'est le communautarisme honnête épinette, en fait. Eux, ils vous disent d'abord, nous on est d'abord citoyens des honnêtes et des épinettes, donc la contraction ça fait épinetzo. Avant d'être algérien, avant d'être sénégalais ou avant d'être français, ils sont fiers de leur quartier et ils sont tous frères ensemble.
D'accord, donc cette fraternité quand même on l'a ressenti malgré le fait qu'à un moment donné on s'identifie comme venant d'eux ou jouant pour, mais finalement c'est ce qu'on a quand même pu retenir.
Alors qu'en ce moment on voit plein d'images de racisme entre guillemets entre noirs et arabes, on voit ça partout sur les réseaux sociaux.
On en entend de plus en plus.
Faites un tour à Évry, vous allez voir que c'est pas du tout le cas là-bas, en tout cas dans les quartiers des honnêtes et des épinettes, c'est même l'inverse.
Olivier, tu voulais rajouter peut-être quelque chose?
Oui, d'ailleurs c'est pas le cas non plus dans les 99,9% du pays. Je crois qu'il y a parfois des images qui marquent et que du coup les gens relayent parce que c'est toujours la politique du buzz, mais heureusement que c'est pas le cas, bien sûr. Mais moi l'ambiance, parlez-nous un peu de cette ambiance que vous avez ressentie, vous, en tant que finalement vous étiez spectateur, vous étiez l'œil du dehors de cette compétition. Et quelle était l'ambiance dans les tribunes, sur le terrain?
On était spectateurs, mais à la fin on était presque acteurs, hein, puisqu'on passait vraiment toutes les journées avec eux, donc on avait l'impression vraiment d'être immiscés dans ce tournoi. L'ambiance, je pense qu'il y en a certains qui la résument très bien, le reportage. Ils disent, nous on a arrêté de travailler parce que ça se vivait tous les jours, en plus c'était en période de Ramadan, donc c'est une période assez exceptionnelle là-bas. Et l'ambiance c'était, en fait, toute la semaine, ils attendent le week-end, les matchs. Donc ils faisaient que ça, la canne.
C'était vraiment l'actu, quoi.
Bon, c'est ça. Messieurs, on va revenir un peu dessus, parce qu'on est un peu en retard. On va partir pour la victoire.
Time Sport, la victoire.
La victoire, non mais je ne vais pas vous couper parce qu'on va parler du PSG, mais juste avant, parce que j'avais deux trois petites questions à vous poser, parce qu'effectivement, Olivier parlait de cette ambiance et autres. Pour terminer, à votre avis, y aura-t-il une vie après ce phénomène Cannes des banlieues? Est-ce que y aura quelque chose d'après, ou alors c'est un phénomène qui s'est fait parce qu'il est arrivé de manière conjointe avec la Cannes, ou alors vous pensez que c'est quelque chose qui est amené à se perpétuer? Pour finir rapidement.
Non, je pense que c'est quelque chose qui est amené à se perpétuer. Encore une fois, aux honnêtes et aux épinettes, ils n'ont pas commencé par la CAN, ils ont fait d'autres tournois avant. Et en fait, ils font ça tous les étés. Donc l'année ils ont même organisé une fois des Jeux Olympiques au quartier. Ils faisaient des 400 mètres haies, des choses comme ça. Donc eux, en tout cas, ils vont continuer après, avec ou sans médiatisation, avec ou sans 1000 personnes autour du terrain. Mais en tout cas, des initiatives comme ça, ils en font tous les étés. Ils continueront à en faire.
Mais peut-être pas dans cette ampleur-là.
Bon, ben voilà, on a terminé le sujet Cannes. En tout cas, moi, je vous conseille la Cannes d'Evry. Et c'est sur YouTube.
Evry l'autre Cannes sur YouTube.
Voilà, exactement. Donc vous pouvez vous rendre sur YouTube. Et puis
très facile à trouver.
Donc on va parler du PSG. On est parti sur le PSG avec effectivement une prolongation de folie en vue pour Kylian Mbappé au PSG. On a entendu parler là tout récemment. Afin de contrer une offre en préparation du côté de Manchester City pour attirer Kylian Mbappé, selon les dires du légendaire tabloïd The Sun, le PSG serait prêt à bétonner le contrat de son attaquant français pour repousser les éventuels assauts anglais et avance même un salaire de 950 000 euros, vous avez bien entendu, 950 000 euros par semaine jusqu'en 2025, environ 50 millions par an donc.
Voilà, pour les non-mateux, voilà. 50 millions par an. On a quitté la terre là.
Ouais, je suis assis. Je sais pas si vous êtes encore debout. Je vois Alison qui
incroyable.
Est en train de s'accrocher à son micro. C'est pas mal, non
enfin...
Alison, ça a l'air de te. Tes cheveux ne sont pas dressés sous ta tête, mais c'est presque.
Alors là on y est quand même. Hein.
Ouais.
50 millions.
Est-ce bien raisonnable? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle?
C'est. On est totalement. On a perdu toutes les proportions là.
En sachant, je mets des guillemets, hein, c'est le Sun, on connaît le Sun
qui est capitaine. Ça a été confirmé par
El País. Voilà, El País qui est quand même un peu plus tempéré. Mais
pour l'instant,
quand même.
On parle quand même au conditionnel, mais bon, sait-on jamais avec tout ce qui se passe en plus au Paris Saint-Germain ces derniers temps, le départ de Neymar ou pas.
Est-ce que tu penses que
justement le départ de Neymar conditionnerait ce
exactement, contrat exactement, fait, parce qu'il se dégraisserait de Neymar exactement. Et du salaire de Neymar pour pouvoir blinder Kylian Mbappé. Donc peut-être que c'est une bonne stratégie en tout cas au vu du départ de Neymar, mais trop de proportions gardées, c'est quand même incroyable.
Justement, tu parlais de bonne stratégie, mais n'est-ce pas une bonne stratégie de Kylian Mbappé que d'avoir fait un peu... N'a-t-il pas mis le feu aux poudres à sa fameuse sortie au Ballon d'Or?
Je pense que Kylian Mbappé, là, il joue un peu au bluff. Je pense qu'il ne signera pas le contrat.
Je pense
qu'il est surtout en train de préparer l'après et peut-être un départ au Real de Madrid dans quelques temps. Je pense que c'est surtout ça la finalité. Mais là, tout de suite, il y a un contrat comme ça.
Mais
même pour
signer.
Paris Saint-Germain.
Mais pourquoi il ne pourrait pas signer, Olivier?
Parce que sinon, il est emballé jusqu'en 2025.
Et pourquoi il ne serait pas emballé jusqu'en 2025?
Attends, laisse-moi finir. Il est emballé jusqu'en 2025. Aucun club ne pourra rivaliser avec un contrat Mbappé jusqu'en 2025, parce que dans ce cas,
la clause,
elle est. Enfin, il y a pas vraiment de clause dans ces cas-là, mais c'est des chiffres astronomiques. Et surtout, aucun club ne pourra s'aligner sur ce salaire-là. Mbappé, s'il signe ce contrat-là, il le sait. Il fait sa carrière à Paris au moins jusqu'en 2025.
Alors, donc pour
parce
toi.
Parce que là, personne ne pourra. Non, pour moi, il ne signera pas
non,
ce contrat.
Non, jamais.
Pour toi, il ne signera pas.
Non, non.
Thomas, ton si jamais.
J'ai aucune idée.
Moi, je t'ai vu, t'as reculé d'un mètre du trophée.
C'est le chiffre, 150 euros par semaine.
T'inquiète pas, on ne te balancera pas au PSG.
Il signera pas la canne d'Evry, ça je sais.
Ça aurait été chouette cependant.
C'est un gamin de Bondy, la canne de Bondy, pourquoi pas.
Si on lui propose, écoutez, moi je trouve ce chiffre délirant, mais si le PSG lui propose et qu'ils ont les moyens de lui proposer, je pense qu'il serait bête de passer à côté. Après, ça va être le quotidien du PSG tous les étés, le feuilleton Mbappé, quand on va dégrossir.
En plus, je vais me permettre de couper parce que bête de passer à côté, il sait que lui, son objectif, il l'a jamais vraiment caché. La première conférence de presse qu'il fait au PSG, il le dit très bien. Le PSG est une étape ma carrière. Faut oublier ça. Lui, sa bascule, elle se passe au Real.
Au Real de Madrid.
Enfin, a priori, en tout cas, sauf s'il y a encore d'autres trucs, mais a priori, c'est vraiment le club de son.
Oui.
Il rêve de faire carrière.
Mais ça va. Dans le football, tout va très vite.
Bien sûr, mais si tu signes ce contrat-là, tu peux pas le chercher le joueur après.
Et gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ça peut aussi le motiver, peut-être dans l'année qui vient, s'il y a des beaux résultats en Ligue des Champions, on sait jamais. Voilà, il peut aussi se blesser, hein, Kylian Mbappé. On voit Fikir qui valait 80 millions d'euros il y a 6 mois, qui en vaut 25 aujourd'hui.
Vivien, je te sens aussi un peu dubitatif, non? T'as peut-être un autre avis.
Je suis un petit peu assommé par les 50 millions comme nos amis réalisateurs de la Cannes, mais après moi je pense que quand même Kylian, enfin sportivement avec tout ce qu'il a dit, monsieur responsabilité etc, maintenant en Ligue des Champions on va l'attendre, et enfin en tout cas on sait que tôt ou tard il partira au Real Madrid, mais pour moi il peut pas quitter le Real sans donner une Ligue des Champions, ou au moins une finale de
C1. Il ne pourra jamais quitter le PSG en signant ce contrat. Moi ça me paraît impossible. J'insiste là-dessus.
Non mais je veux dire
que c'est plus 200 ou 300 millions. Hein. Mais pour acheter un contrat comme ça qui est quand même à 50 millions d'euros, juste le salaire par an, jusqu'en 2025, tu fais le calcul, c'est
ah non mais c'est fou. Mais
plus la valeur marchande.
Mais il peut pas quitter Paris comme ça sur un huitième de finale comme il a fait.
Donc là on sait qu'il part.
Oui, mais je veux dire pour l'an prochain, pour 2020-2021, faudra qu'en Ligue des Champions. Oui, avant de partir, mais il faudra qu'il donne quelque chose
de plus.
Moi, je
pense qu'il sur sa dernière année.
Voilà. Ah, donc pour toi, Olivier, ça serait pas, on n'est pas devant un Maldini ou un Francesco Totti, quelqu'un qui serait le
cas de Cabinvi. Mais il s'en cache pas.
Oui, mais par exemple, s'il n'arrive pas à amener Paris, on va dire en demi-finale de C1, ça veut dire que t'es Mbappé, tu pars comme ça.
Mais sur un huitième, pas comme ça, parce que tu pars pas à Lorient ni à Guingamp, tu vas au Real.
Non, mais bien sûr.
Comme plein de joueurs.
C'est le plus grand club au monde, ça, on est d'accord avec ça, mais en termes d'image. Quand tu prends Mbappé, t'espères quand même aller en demi-finale.
Quels sont les mots de Mbappé depuis qu'il fait du foot ? Je veux battre tous les records. Tous les records. Il peut les battre à Paris, mais il pourra encore plus facilement les battre. Il pourra devenir encore plus facilement une légende à Madrid. Mais on le sait. Moi, je veux dire, il n'y a pas de problème avec Paris, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, si tu veux être une légende, ça se passe plutôt à Madrid.
Ah, ça, c'est sûr.
Thibaut qui veut donner son sentiment aussi.
Oui, battre les records au Real, il y a quand même un Ronaldo qui a mis quelques chiffres sur les tablettes, ce sera pas facile. Il faut savoir aussi qu'en 2025, Mbappé, il aura que 26 ans. Il aura tout le temps d'aller au Real après, peut-être.
Peut-être voilà. Que tu as. Moi, j'y crois pas, absolument pas.
Moi non plus, j'y crois pas. C'est pour moi, Kylian Mbappé, il prépare vraiment l'après. Il signera pas ce contrat et prépare son arrivée au Real de Madrid.
Bah, comme d'habitude, le petit kit de Bondy qui passionne, qui déchaîne les commentaires. Vous l'avez vu, hein. Enfin, tout le monde est un petit peu dubitatif ou alors un peu en questionnement, forcément. Bon, on va revenir tout de suite sur le duel après avoir parlé de Kylian Mbappé. À tout de suite.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport.
Après la victoire, le duel où on va parler des entraîneurs portugais qui ont un peu envahi la Ligue 1 et voir avec nos chroniqueurs pourquoi ils ont tant de succès. C'est parti pour le duel.
Time Sport.
Comme je vous le disais, comment les entraîneurs portugais se sont imposés en Ligue 1 ? Leonardo Jardim, Paulo Sousa ou encore André Villas-Boas, tout fraîchement arrivé à Marseille. Les compatriotes de José Mourinho qui officient en Ligue 1 partagent une méthode, mais pas forcément un réseau. Pourtant, ils sont bien bien présents et en force. Messieurs, madame, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette arrivée massive des entraîneurs portugais ?
Rappelez-vous déjà en 2017, Jorge Jesus, qui était donc l'entraîneur à l'époque du Sporting Portugal, aujourd'hui qui est l'entraîneur de Flamengo, il disait « Les qualités tactiques et stratégiques des techniciens portugais en font les meilleurs, certainement, du monde. » Mais l'histoire d'amour des entraîneurs portugais...
Tu peux nous rappeler l'année, Olivier ?
En 2017. Le premier rendez-vous entre la France et le coaching portugais, ça date, à votre avis, de quelle année ça a réellement commencé ? Ça a commencé en 91 avec l'arrivée d'Arthur Georges à Paris, qui a été donc fraîchement couronné avec le FC Porto.
Avec une grosse moustache.
Exactement, et qui a aussi permis à Paris de gagner la Coupe de France en 93 et championnat en 94. Et rappelez-vous que le championnat à cette époque-là, fallait réussir à le prendre à l'Olympique de Marseille. C'était pas du tout. Enfin, remarquez, en 94, il me semble que l'Olympique de Marseille n'était.
Tu sais ça parce qu'il n'y a pas de supporters marseillais, il n'y a pas de Marseille sur le plateau aujourd'hui.
Mais grosso modo, la vraie histoire d'amour commence en 91 avec Arthur Georges.
C'est vrai. Effectivement, alors n'est-il pas intelligent de ne pas se mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on parlait effectivement de cette capacité de ces entraîneurs portugais à s'insérer dans le championnat, mais tout en gardant quand même une certaine distance les uns vis-à-vis des autres, chacun travaillant de son côté et ne jugeant pas le travail de l'autre. Une sorte de solidarité d'esprit sans forcément développer un esprit clanique, qu'on pourrait leur reprocher, enfin Vivien. Ce côté solidaire, mais sans forcément venir se mettre des bâtons dans les roues. Finalement, on voit Jardim qui travaille de son côté, on voit Paulo Sousa qui travaille de son côté.
C'est quand même
une forme d'intelligence. C'est là où je voulais nous emmener.
C'est la formation des coachs portugais, justement, est fondée là-dessus, sur l'humilité et sur la tactique, la technique et le travail mental. Aujourd'hui, regardez, quand même, Mourinho, comment il a commencé? Vous savez que Mourinho, ce qu'il a fait
bien avant,
il était soigneur. Après, il est devenu adjoint, il a été aussi, je crois, traducteur pour Van Gaal. Mais son premier truc, c'était voilà, on commence en bas et puis après, on monte petit à petit. Et il y a plein de coachs comme ça, Villas-Boas, qui, pareil, avant de passer outre-Manche, il a dû gagner avec, je crois que c'était avec Porto. Et c'est des coachs qui ont une vraie, comment dire, une vraie histoire au niveau de tout l'aspect technique, tactique et surtout la gestion du mental des joueurs. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est recherché aujourd'hui en Ligue 1.
C'est des coachs finalement qui se retrouvent sur les mêmes fondamentaux.
Alisson, oui.
Ils se retrouvent exactement sur les mêmes fondamentaux, comme disait Olivier, c'est des coachs qui aiment travailler le mental de leurs joueurs, qui aiment clasher leurs joueurs, qui aiment pousser leurs joueurs.
Comme chez Chao à Nantes, regardez.
Exactement, qui aiment tout sortir de leurs joueurs, quitte à sortir le pire, mais dans ce pire-là, aller chercher le meilleur. Et c'est des joueurs très très tactiques aussi, c'est des entraîneurs pardon, très qui sont portés sur l'aspect très tactique, très technique. Et mais finalement, ils se regardent de loin.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes fondamentaux, mais ils se regardent de loin. Ils ne se critiquent pas, ils ne se taclent pas.
C'est ça.
Jamais on n'entendra un tel dire à Jardim non, t'as mal fait ton travail, etc. Respect, vraiment, c'est des joueurs très, très, très,
c'est pour ça que je parlais de solidarité d'esprit.
Exactement, je reviens encore une fois à ce que je disais, c'est que les fondamentaux sont les mêmes.
Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu une mode. Il y a eu les entraîneurs italiens, souvent les entraîneurs portugais. Ce qui plaît, c'est le fait que ce soit des tacticiens, qu'ils aient pas forcément une grosse carrière en tant que joueur de foot pro. Hein. Mourinho, c'était un piètre gardien.
Paulo Sousa, c'est pas mal quand même.
Paulo Sousa, c'est le contre-exemple. C'est mais Jardim, c'était juste un érudit, hein, quelqu'un qui était à l'université, qui a appris le foot presque sur les bancs de la fac. C'est un petit peu à la mode. Voilà. Après, est-ce qu'ils apportent vraiment quelque chose au foot français? Jardim a eu des résultats. Villas-Boas, je demande à voir quand même. À part à Porto, il a jamais été grandiose non plus. Je pense qu'il faut pas trop.
T'as l'air un peu sceptique.
Je suis un peu sceptique. Je défends absolument pas les entraîneurs français. Hein. J'aime beaucoup ce que les entraîneurs étrangers apportent au championnat de France. Mais je pense pas que le fait qu'ils soient portugais ou non joue vraiment dans les résultats.
C'est des mots de
Thomas,
de la part d'un supporter girondin qui est donc un entraîneur portugais.
Ah, tu l'as découvert. Il ne l'avait pas dit qu'il était supporter des. Ça y est, tu l'as balancé.
Je souhaite à Paulo Sousa beaucoup de succès, mais ça va être compliqué. Villas-Boas à l'OM, je pense pas qu'il.
Ça va être compliqué
aussi. Voilà. Pour l'instant, il y a que Jardim qui a eu des résultats dans le championnat de France, même si c'est assez récent. Voilà, c'est juste en ce moment peut-être une petite mode d'avoir des entraîneurs un petit peu plus tacticiens.
Justement, pour aller encore un peu plus loin, parce que tu parles de mode, alors quelle particularité font les coachs portugais, de bons techniciens dans l'ensemble, s'exportant bien au-delà des frontières, comparé par exemple à nos techniciens hexagonaux?
Je trouve bon humainement aussi, moi je trouve qu'ils ont un bon rapport aux joueurs. J'ai l'impression qu'ils comprennent assez bien la philosophie des joueurs.
Quoi, hein.
Et ils arrivent à faire passer parfois certainement des séances tactiques un peu lourdes, mais également ludiques. J'ai l'impression qu'avec le foot actuel, ça correspond bien.
Très bon communicant aussi.
Oui, très bon communicant.
Et moi, j'ai l'impression
aussi. Même si Mourinho, ces dernières années, au niveau de la communication, c'est un peu
moins bien.
Bah, Mourinho, je pense qu'il a tiré la corde jusqu'à ce qu'elle se casse, je me semble, tout simplement.
Mais j'ai aussi l'impression que tactiquement, pendant les matchs, ils n'ont pas peur de prendre des risques, à l'exemple d'un Jardim, par exemple. Même si bon, l'an dernier c'était un peu plus compliqué. On va dire dans ces années, enfin l'année du titre notamment 2016-2017, oui, j'ai eu l'impression que certains matchs.
Justement, ça me permet de rebondir sur la question que je voulais vous soulever aussi, à savoir si on les compare à nos techniciens hexagonaux, qu'est-ce qui fait la différence justement? Parce qu'à un moment donné, si on les fait venir, si on a cet attrait aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose chez eux. Peut-être que nos coachs n'ont pas. Si on pouvait faire un élément de comparaison, avoir des éléments de comparaison, qu'est-ce qui pourrait les distinguer de nos techniciens nationaux qui sortent de la DTN?
Ben là, franchement, c'est une question un peu complexe, dans le sens où je crois que chaque président de club, effectivement, a ses critères bien clairs, justement, pour trouver un coach. Effectivement, je rejoins Tristan, il y a un certain effet de mode, parce que par exemple, un Villas-Boas, sincèrement, mis à part ce qu'il a fait à Porto, derrière, il a fait quoi? Chelsea, Tottenham.
Après, il passe Zenit.
Et puis après, c'est pas péjoratif, mais il était coach à Shanghai. Ouais. Voilà, moi, j'attends de voir. Je suis assez pessimiste par rapport à Villas-Boas parce que, aussi bon soit-il, déjà, avec l'effectif qu'il a, ça va être un petit peu, pour ma part, je trouve compliqué. Pour Bordeaux, je pense que ça va être compliqué aussi, malgré tout. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont de plus? Je sais pas. Peut-être un aspect technique ultra développé parce que la formation portugaise est vraiment formée là-dessus sur la tactique et la technique. Peut-être que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui, comme le disait Tristan. On verra cette année. De toute façon, je pense que cette année montrera bien les choses.
J'ai l'impression aussi qu'ils savent bien s'entourer. Ils ont souvent des groupes avec des coachs jeunes, des analystes vidéo. Voilà, c'est un football assez moderne, hein, celui des entraîneurs portugais.
Exactement.
C'est pas dit que ça réussisse, mais en tout cas, c'est ça qu'ils apportent aussi, un nouveau mode de fonctionnement dans des clubs français un petit peu qui étaient restés un peu sur la mode des années début 2000.
Ils apportent peut-être aussi de l'espoir avec ça, puisque les coachs français, mine de rien, on a l'impression que c'est tout le temps un peu les mêmes. De nouveaux noms.
Merci Thomas. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut un peu piquer parce que on dit toujours qu'on a la meilleure formation, on a la formation à la française et autre chose. Pourtant, on le voit. Ici, quand on passe les jeudis en Ligue Europa, on tire un peu tous la tronche parce qu'on a justement des entraîneurs qui nous vendent
la qualification à la course européenne chaque année. Et une fois qu'on arrive à la qualification à la Coupe européenne, ah ben on n'a plus d'effectifs, on n'a plus de jeu. En fait, finalement, on a une sorte de mode de pensée.
Grand Dieu, le nombre de débats qu'on a eu là-dessus.
Alors, je ne sais pas si c'est stricto sensu français, mais on sait très bien que nos coachs, en général, c'est vouloir se qualifier à tout prix pour aller jouer l'Europe. Et finalement, une fois que tu es en Europe, bah, il n'y a plus personne. Et alors, on pense au match du jeudi pour le match du dimanche. Donc, est-ce que là-dedans, j'ai pris ça comme exemple, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dépoussiérer ou quelque chose, quelque
part? De toute façon, soyons factuels. Combien d'entraîneurs réussissent en ce moment à l'étranger? Zinedine Zidane, qui vient de revenir à Madrid, a effectivement une carrière qui parle pour lui. Il n'y aura rien à dire. Il n'y aura aucun reproche. Évident. Il a les résultats qui parlent vraiment pour lui. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui, par exemple? Alors que, par exemple, les entraîneurs portugais sont très demandés à l'étranger.
Pour ça, je dis, comment les Français ne sont pas. Comment se fait-il que les entraîneurs portugais puissent s'exporter de telle manière, alors que de l'autre côté, les Français ne s'exportent pas?
C'est qu'aux yeux des présidents des divers clubs qui recrutent des entraîneurs, l'entraîneur portugais aujourd'hui est plus performant que l'entraîneur français. Tout simplement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être pragmatique. On voit ce qui se passe. Il y a énormément d'entraîneurs portugais qui s'imposent dans plein de clubs. On a combien d'entraîneurs français qui s'imposent dans des clubs étrangers? Et il n'y en a pas, à part Zinedine Zidane aujourd'hui.
Puis on a vu Puel, qu'il y avait d'autres, Rudy Garcia à la Roma, c'était pas un football très attrayant non plus. Il y a
même
eu
si la première année à Ed Garcia à la Roma,
bon mois, mais très vite il déchante parce que voilà, les entraîneurs français sont plus pragmatiques et peut-être ça fait moins rêver.
On a eu quand même Ronald Nouex qui a fait un petit peu, qui s'est exporté.
Il y a 20 ans. Ouais,
mais c'est vrai qu'on
peut. Avant que tu sois à la retraite.
Deschamps à la Juve aussi.
Deschamps à la Juve, on peut les compter sur les doigts de la main quand même. Vivien, tu voulais, mais c'est pas grave. Tu Olivier t'a paraphrasé, il a sauté sur ta phrase, mais tu peux peut-être te donner ton sentiment aussi.
Non, mais effectivement, j'ai l'impression que les entraîneurs français, globalement, on n'a pas la cote à l'étranger. Peut-être c'est malgré les trois Ligues des Champions de Zizou, on voit que globalement, les clubs étrangers et même nos clubs à nous.
On a Karim de Lyon qui veut donner aussi son sentiment sur l'afflux et l'influence des entraîneurs portugais. Karim, comment vas-tu, Karim de Lyon?
Ça va très bien et tout. Je prends votre sujet un peu en cours et tout. Et bon, on parlait un peu de formation au niveau des entraîneurs, tout ça.
Oui.
Comment fait-il qu'en France et tout, voilà quoi, on nous vend tout le temps la formation finalement et tout. Au niveau des entraîneurs, et ça passe pas, et au niveau même du jeu. Donc, ce que j'ai envie de dire et tout sur la formation, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. On a un mode de pensée. On pense, c'est comme si quelqu'un pensait qu'il est plus fort que l'autre, mais finalement, il est en dessous. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans la formation en France, c'est quoi? C'est, moi, je trouve, c'est un football beaucoup axé sur le physique. Donc, on choisit des gabarits, on choisit du jeu physique, mais au détriment du jeu technique et du jeu, j'allais dire, l'orientation du ballon, du jeu intelligent.
Karim, pour être un peu plus précis sur la question, parce qu'en fait là, tu nous parles du jeu, tu nous parles effectivement de la prise en charge de l'équipe, mais on parlait de cette vague d'entraîneurs portugais qui venaient aujourd'hui, et d'ailleurs nos chroniqueurs se disaient que c'était peut-être un épiphénomène, c'est peut-être quelque chose de passager. Ton sentiment, tu penses que s'ils apportent quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui va perdurer, qui va persister?
Oui, moi je pense quelque part et tout qu'il faut un changement. Il y a qu'en France et tout qu'on voit pas, par exemple, et tout débarquer des entraîneurs un peu de l'extérieur pour amener quelque chose de nouveau. Je trouve que c'est un bien parce que on est tout encloisonné et on a toujours cette idée justement qu'on est bon dans la formation, on est bon dans ça. Et je pense qu'il le fait de prendre d'autres entraîneurs avec un autre style de jeu, de pensée. Lui, c'est quelque chose de très positif. Bon. Ça fait du partout. Et donc, moi, je trouve que oui, c'est un bien. Et donc, voilà quoi. Je pense que ça va un peu...
Merci beaucoup, voilà. Karim. Merci pour ton sentiment. Ouais. Merci pour ton appel. Et puis, on espère te retrouver bientôt sur les antennes de Time Sport.
Merci bien.
Au revoir. Après cette intervention de Karim qui donnait ce sentiment, on va passer sur le mode de pressing et faire un point sur le mercato avant la reprise des championnats.
Time Sport, le mode pressing.
Le mode pressing avec un point mercato avant la reprise. Alors moi, ma question, savoir aujourd'hui, est-ce qu'on se dirige-t-on devant une nouvelle saignée, un nouvel exode de nos pépites Made in Ligue 1, Conforama? Mesdames et messieurs.
Bah. Je sais pas, c'est encore peut-être un petit peu tôt pour le dire là. Déjà, on sait que Nabil Fekir a signé hier à Séville. Au Betis avec son frère pour un montant quand même assez étonnant. compris. 19, 75 millions. Je crois qu'il y a, 10 millions en bonus, divers bonus. Il y a 20% à la revente pour, sur la plus-value pour Nabil Fekir et je crois 50% pour son frère Yacine. Bon, c'est étonnant de voir Nabil Fekir. Je pensais, après, preuve en est, je me suis trompé. Je pensais que Nabil Fekir aurait pu prétendre à un club autre que le Betis, même si sa saison fut.
Naples était intéressé.
Tout à fait. J'ai du mal à comprendre ce qui fait qu'on puisse choisir le Betis, avec tout le respect que j'ai pour le Betis.
Son choix du Betis, en tout cas pour ma part, Nabil Fekir. Il y avait Naples, il y avait des joueurs, des équipes, pardon, de Première Ligue. Et il se retrouve au Betis Séville.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas été, parce que peut-être pour ne pas faire face à cette concurrence, quand tu vas à Naples, c'est peut-être pas la même chose que quand tu vas à Séville.
C'est pas la même chose, mais c'est quand même Nabil Fekir. C'est pas.
Alors, c'est quand même Nabil Fekir, si je peux me permettre, tu as quand même vécu une saison un peu compliquée.
Même s'il a vécu une saison un peu compliquée, je pense que c'est un joueur qui est quand même de l'envergure à supporter la concurrence et à réussir dans un très bon club.
Je pense que Fekir, s'il a aussi besoin d'une équipe qui lui est presque totalement dévouée, c'est pas un joueur qui court énormément sur le terrain, donc à Naples ça aurait peut-être été un peu difficile. Et j'ai l'impression que c'est un peu une décision de vie, hein, familiale. Séville, ouais, avec son frère, pas très loin non plus de son pays d'origine aussi, il faut le dire aussi, ça peut jouer pour les voyages. Je pense que
il paraîtrait qu'Abidal lui aurait soumis de venir au Betis, comme ça le Barça pourrait vraiment continuer à l'étudier.
Attention, le Betis ça joue quand même.
Je te parle vraiment en termes de compétition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Champions League. C'est vraiment ça dont je parle. Naples, il aurait pu jouer la Champions League. Par contre, est-ce qu'on perd des talents? Marcus Thuram qui part au Borussia
Mönchengladbach.
Voilà, mon accent allemand est peut-être travaillé.
Je vais tirer les oreilles par Nassim Bourassa.
Mais tu vois, il y a aussi un garçon comme Todibo qui était parti au Barça l'hiver dernier,
oui.
Et qui finalement aujourd'hui, on parle de lui au Celta en prêt, à Nantes en prêt. Oui. A priori, il y a aussi le Milan AC qui est intéressé.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs.
À mes yeux, pour beaucoup, mis à part Marcus Thuram qui fait vraiment une belle saison et qui, voilà, je crois qu'il a 22-23 ans, effectivement, il voulait voir autre chose. Mais le petit Odibo, par exemple, je dis petit parce qu'il est tout jeune, finalement, on peut se demander, est-ce qu'il n'est pas parti trop tôt, finalement? Est-ce qu'il risque pas de gâcher sa carrière? Moi, c'est vraiment la question que je me pose par rapport à des garçons comme ça.
Bah, écoute, c'est un peu compliqué, je sais pas. Mais en tout cas, le fait d'être prêté, d'être au Barça et d'être prêté, c'est pas non plus quelque chose de.
Non, bien sûr, mais dans ce cas-là, autant rester dans son club formateur et essayer de progresser, c'est ça. Compliqué. Tu vois, la différence pour moi, c'est.
Tu devrais rester dans ton club formateur une saison supplémentaire, alors que tu peux t'entraîner quand même avec la possibilité de progresser.
Bien sûr. Si tu signes au Barça et que tu joues pas, ça sert à rien. Il a fait 6 mois, il a fait quoi pendant 6 mois? Il a rien fait. C'est pas de sa faute, je critique pas le. Voilà, il y est. Mais je veux dire, la mentalité qui est de quitter quasiment de plus en plus tôt le club formateur, déjà, enfin, je suis pas sûr que pour l'épanouissement même du talent du joueur, ce soit quelque chose qui le servira plus tard. On verra, peut-être que je me trompe, notamment pour ce garçon. Je lui souhaite toute grande réussite, mais ça me pose question.
Bah, espérons pour lui qu'il va jouer cette année. Il a un peu plus de temps de jeu.
On a vu Koundé, Saliba, il y a plein de jeunes qui sont bons très très tôt après.
Oui, Saliba, c'est Arsenal, je crois. Oui.
Oui, bon, il va rester en prêt un an, mais voilà, il a joué une demi-saison, c'est très très rapide. Le mercato pour l'instant est décevant côté français, comme d'habitude, on n'arrive pas à garder nos joueurs.
Il faut dire quand même qu'on est tout au début.
Le début de saison va se rapprocher si on veut construire un groupe.
On est qu'au début, ça peut aussi s'empirer.
Voilà.
Ça va s'emballer.
Oui. Oh, Alison, j'attends. Alison, en fait, elle a des petites. Je crois qu'elle a des billes, mais elle veut pas les lâcher.
J'attends. Quand je reviendrai, je vous dirai tout.
Bon, en tout cas, on est très content de vous avoir reçu aujourd'hui. Enfin, Thomas, Thibaut, votre reportage, on va le suivre, on va le lancer et on va tout balancer sur les réseaux.
Merci.
On vous souhaite une bonne continuation.
C'est gentil, merci.
Evry, l'autre canne.
Voilà. Sur YouTube.
Ouais. Merci de nous avoir écoutés ce soir en compagnie de nos consultants Olivier Jay, toujours aussi beau, Alison Kunku et Vivien Bouyibanga. On se retrouve demain sur Beurre FM.
Retrouvez Timesport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.